Radio Okapi. Le journal présenté par Jocelyne Moussa Oponde.
Retour au pays de près de 30 000 réfugiés congolais vivant en Angola. Les premières vagues arrivent ce vendredi par la frontière de Kamako à une centaine de kilomètres de Chikapa. Incursion ce vendredi des ADF dans un centre commercial à Boga en Ituri. Ces assaillants ont pillé des boutiques et pris en otage certains habitants pour transporter leur butin. Houston Sinen, directeur pays du Fonds des Nations Unies pour la population, est notre invité. Il vient de visiter les sites des déplacés à Bounia et en territoire de Djougou. Bonsoir à tous. Au Kassai, près de 30 000 réfugiés congolais retournent au pays. Le ministre provincial de l'Intérieur est arrivé ce vendredi à la limite de la frontière congolaise de Kamako, à près de 160 km sud-ouest de Chikapa, de l'air Kawino Ndongo, dit être parti accueillir les Congolais qui vivaient dans les camps des réfugiés en Angola. La première vague de ces réfugiés arrive dans quelques heures, selon lui. D'autres précisions avec André Kambala.
D'après le ministre Kawino, ces Congolais sont estimés à près de 30 000 par le HCR. Il ajoute que le rapatriement se fait simultanément sur trois fronts. Une vague sort par le Congo au Bandundu, une autre par le territoire de Luisa au Kasaï central. La troisième, qui reprend près de 85% d'après lui, sort par Kamako. Tous ces Congolais avaient fui le conflit que l'espace Kasaï a connu entre 2016 et 2017. Ils vivaient dans des camps de réfugiés en Angola. Après une tentative de retour à pied, indique le ministre, le gouvernement angolais les a bloqués au niveau de l'Ovoie pour les retourner par camion. Dans la cité de Kamako, des sites d'hébergement de ces vulnérables sont déjà aménagés. Après quelques jours sur place, sera organisée leur évacuation dans les milieux d'origine. À côté de ces réfugiés se trouvent les Congolais qui retournent librement. Il y a aussi des Congolais non en règle qui préfèrent rester en Angola. Ce sont eux qui sont souvent expulsés et dans des conditions inhumaines. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
En Ituri, des miliciens ADF ont attaqué ce vendredi matin les centres commerciaux d'Izinga en chefferie de Bahema Boga. C'est à environ 15 km de la rivière Semiliki qui sert de limite entre l'Ituri et le territoire de Benio Nord-Kivu. Selon la société civile locale, ces ADF ont pillé certaines boutiques et pris en otage certains habitants pour transporter leur butin. Le porte-parole des FARDC en Ituri indique que les forces loyalistes ont repoussé ces ADF. Ils ajoutent que deux rebelles et un militaire ont été blessés pendant les combats. Isaac Raymond.
Des sources concordantes rapportent que ces rebelles ADF lourdement armés sont entrés vers 5h du matin par l'aérodrome de Boga, attirant plusieurs coups de balle. Ils avançaient vers le centre commercial d'Izinga situé à 1 km où est placée une position des militaires FARDC. Ces derniers n'ont pas résisté à l'assaut des rebelles. La société civile locale précise que ces hommes armés sont passés par l'hôpital général pour arriver au centre commercial où ils ont pillé plusieurs boutiques. Ils ont ensuite pris en otage certains habitants pour transporter leur butin. Selon la société civile, les FARDC qui ont été alertés tôt le matin sont intervenus en retard après les retraits de ces ADF. Le porte-parole des FARDC en Ituri affirme plutôt que ce sont les forces loyalistes qui ont stoppé l'avancée de ces rebelles dont l'objectif était de piller l'hôpital. Elles les ont repoussés vers l'aérodrome où des combats se sont poursuivis dans l'avant-midi. Le lieutenant Gilles Ngongo renseigne que des rebelles ADF et un soldat ont été blessés par balle pendant les affrontements. Un rebelle ADF en errance a été également capturé avec son arme par la population puis remis aux autorités militaires, affirmé des sources locales. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis au Nord-Kivu, plus de 15 000 familles déplacées sont enregistrées dans les villages de Nobili, chefferie de Watalinga. Ces personnes ont fui ces derniers mois les attaques des ADF. Information donnée par le comité des sécurités territoriales au cours d'une réunion tenue hier à Nobili, réunion à laquelle a participé une équipe de la MONUSCO. Sekombi Katondolo nous en dit plus.
Hier jeudi, une délégation des différentes sections de la MONUSCO, bureau de Beni et membres du comité local de sécurité élargi aux différentes structures de la société civile locale se sont déplacés jusqu'à Nobili pour s'imprégner de la crise sécuritaire et humanitaire que connaît la chefferie de Watalinga en territoire de Beni. Selon les humanitaires œuvrant dans la région, ce sont 15 991 ménages déplacés et réenregistrés qui reçoivent régulièrement une assistance et la société civile locale parle de plus de 40 000 autres ménages déplacés et familles d'accueil sans aucune assistance depuis plus de 4 mois. Au niveau sécuritaire, il est signalé la présence de plusieurs groupes armés dans cette chefferie, notamment l'ADF, qui est encore très actif en cette période de récolte des cacao. Pour l'administrateur du territoire de Beni, la tenue de cette réunion à Nobili a permis de connaître le réel revendication de la population. Il a promis de les transmettre à sa hiérarchie. On écoute Dona Kibwana.
On venait de me présenter toutes ces palais de problèmes. À mon tour que je dois transmettre à arrivé à Oicha, je vais transmettre à l'autorité provinciale. Et c'est un problème qui regarde les militaires. Je vais contacter directement le général pour ces fins.
Des retours de Kamango Nobili, c'est Kumbi Katondolo, Radio Okapi.
Toujours Nord Kivu, plusieurs structures médicales de la chefferie de Watalinga manquent de médicaments. Cette affirmation est celle du médecin-chef de zone de santé de Watalinga dans le territoire de Beni. Par ailleurs, au centre de santé de Njiapanda de Nobili, faute de moyens, les malades n'arrivent pas à payer leurs factures. Certains s'évadent même en volant les matelas de l'hôpital, chose qui ne facilite pas le fonctionnement de cette structure sanitaire. D'où cet appel de l'infirmier titulaire du centre de santé de Njiapanda à Nobili, Kambalebi Sengue est au micro de Sekombi Katondolo.
Dans notre aire de santé d'Ndiapanda, nous sommes à difficulté à l'approvisionnement des médicaments. Deuxième difficulté, c'est la facturation des malades. On facture, mais les malades n'exécutent pas. Troisième, c'est un rapport avec la prime. Il y a des mois impayés, plus le fonctionnement aussi. Nous sommes à difficulté aussi à fonctionnement. Par exemple, dans les un mois ici, nous avions enregistré une affaire de 150 malades qui ont évadé, et même évadé avec nos matelas, une affaire de 15 matelas. Bon, personne de bonne volonté, nous voulons l'appui. Nous voulons l'appui à l'approvisionnement des médicaments et aussi pour le fonctionnement de la prime et le fonctionnement de la structure. Aux autorités de la République du Congo, nous voulons toujours la paix dans notre milieu, la paix.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Le processus de reddition des combattants est en panne. D'après le ministre provincial de l'Intérieur, 1900 miliciens se sont rendus à ce jour dans le territoire de Kalemie. Quoique la sensibilisation continue auprès de groupes armés, la question de leur prise en charge se pose. Et on apprend que, ici et là, parmi les miliciens qui se sont déjà rendus, certains seraient tentés de regagner la brousse. Expedi Momba Moubi nous fait le point.
Combien sont-ils les miliciens qui se sont rendus jusqu'ici dans le territoire de Kalemie? 1900, répond le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamona.
On est arrivé à 1900 miliciens qui se sont rendus.
Il reste que le problème de la prise en charge de ces ex-combattants se pose. Au site de Moussengue, par exemple, sont rassemblés plusieurs centaines d'ex-combattants du groupe Fimbo da Fimbo. Ces derniers ont déjà reçu des kits de réinsertion de la part de la commission diocésaine Justice et Paix, en partenariat avec la section des affaires civiles de la MONUSCO. La difficulté, c'est leur évacuation. Le coordonnateur de la nouvelle société civile déplore cette situation. Rogatien Kitenge.
J'ai appris qu'il y avait une certaine lenteur quant aux réponses réservées à ces gens-là. Un certain relâchement.
À chacun sa part de responsabilité, rétorque le ministre provincial de l'Intérieur.
La délégation de Kinshasa est venue. La délégation a vu ces jeunes gens. On a recensé. Nous, on a fait notre part. Maintenant, nous attendons les autorités de Kinshasa.
Kalemie, Expedi Mwamba Moubi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, coup d'envoi ce vendredi des travaux de réhabilitation d'un tronçon d'un kilomètre et demi de la route de Matadi, partant de la place Météo jusqu'à Gramalik. Il s'agit du tronçon endommagé en mars dernier par les pluies diluviennes, alors que la Régie des eaux posait une grande conduite d'eau le long de cette route. C'était dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financé par la Banque mondiale. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise CGCD, sous surveillance de l'Office des voiries et drainages sur une durée de 3 mois. Un reportage de Billy Van Lutumba et Rosalie Biragui.
À la cérémonie de ces jours, la cellule d'exécution des projets eau et la régie des eaux ont tout d'abord cédé le chantier où elle posait la conduite d'eau à l'entreprise chinoise. Celle-ci a pour mission, selon ingénieur Nkuna Jacques, chargé des opérations à la cellule CPO, de remettre la route en état de praticabilité.
C'est pratiquement la moitié de la route sur sa largeur de 6 mètres qui est abîmée. Maintenant, on prend la totalité de la route qui sera construite dans un délai de 3 mois.
D'un coût global de 1 500 000 dollars, la fin de ces travaux permettra à la régie des eaux et à la cellule CPO de poursuivre avec son projet de disponibiliser l'eau pour la population de l'Ouest. Le coordonnateur de la cellule d'exécution des projets de la régie des eaux, Philippe Lumeka.
L'eau qui sera produite pour compenser cette perte-là, il faut l'amener vers la population. Et c'est cette grosse conduite qui va servir à transporter cette eau vers Kandjaji, ma campagne, aux hommes de ce côté-là, et desservir des veaux.
Par ailleurs, en vue de laisser libre champ aux exécutants des travaux, la cellule CPO renseigne qu'elle a déjà indemnisé tous les riverains qui avaient déclaré un quelconque dommage après les pluies.
Toutes les personnes qui se sont fait identifier ont été prises en charge et indemnisées. Et je suis actuellement en plein traitement de deux ou trois derniers dossiers que j'ai reçus récemment et ces personnes également seront prises en charge et indemnisées.
Autre précision de CPO, dans un premier temps, l'entreprise chinoise va finaliser les préliminaires avant d'amorcer les grands travaux probablement dans une semaine.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur pays du Fonds des Nations Unies pour la population. Il a clôturé hier jeudi sa mission de 4 jours en Ituri. Pendant son séjour, Yuton Sinen a visité les sites des déplacés à Bunia et en Ituri dans le territoire de Djougou. Il a remis des équipements médicaux. Yuton Sinen s'entretient avec Isaac Raymond.
Vous êtes à Bunia depuis lundi. Quel est l'objet de votre visite?
J'étais venu avec 3 objectifs principaux. Premièrement, c'était venu célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire avec le gouvernement et les partenaires dans la province de l'Ituri. Deuxièmement, j'étais venu aussi pour lancer une campagne de réparation de fistules obstétricales. Et donc, cette campagne de réparation va nous permettre d'apporter le sourire et la dignité à au moins une centaine de femmes. Et troisièmement, c'est aussi regarder nos autres programmes que nous avons dans la province. Vous n'êtes pas sans savoir que le Fonds des Nations Unies pour la population, notre premier objectif, c'est de nous assurer que toutes les femmes accouchent sans perdre la vie, que la grossesse soit désirée et donc que les femmes aient des moyens de contraception pour choisir combien d'enfants elles veulent avoir, quand elles veulent avoir et à quel rythme elles veulent avoir, et aussi les violences faites aux femmes. C'est dans ce cadre que j'ai fait le tour des partenaires avec lesquels nous travaillons, particulièrement COPI et SOFEPADI, pour me rendre compte moi-même s'ils ont les matériels qu'il faut, les équipements qu'il faut et aussi les intrants pour pouvoir continuer de prendre en charge les survivantes de viols dans la province.
Concernant ce dernier objectif de votre visite en Ituri, quel est l'état des lieux de la situation des violences en province de l'Ituri?
Vous savez qu'il y a eu une recrudescence ces derniers temps un peu des crises. Chaque fois qu'il y a un peu plus de déplacés, les statistiques augmentent. Et c'est la situation à laquelle nous sommes en train de faire face actuellement. Il y a plus de 45 ans de déplacés que nous comptons. Nous apprenons même que c'est un peu plus. Et donc, nous avons observé une recrudescence des besoins, particulièrement des violences sexuelles. Ce que nous comptons faire, c'est mettre à la disposition des différentes zones sanitaires des intrants, ce que nous appelons habituellement les kits post-viol. Ce sont ces médicaments qui permettent d'apporter une assistance médicale dans les 72 heures à toute femme survivante de viol. Et bien entendu, renforcer quelques plateaux techniques dans certaines formations sanitaires.
Concernant la situation des femmes qui souffrent de fistules, donc il y a cette réparation gratuite qui est financée par UNFPA. Que comptez-vous faire pour juguler ces problèmes de fistules?
Oui, la première des choses, c'est la prévention. Réduire les mariages précoces, réduire les grossesses précoces, c'est d'abord la prévention. Parce que souvent, ces femmes-là, c'est parce qu'elles ne sont pas encore préparées anatomiquement et alors elles développent des fistules. Mais deuxièmement, et c'est important, nous avons encore malheureusement beaucoup de fistules iatrogènes. C'est un terme technique qui veut dire tout simplement que nous avons des fistules qui surviennent comme conséquence des interventions chirurgicales. Cela pose le problème de la qualité des soins. Et donc ce sur quoi nous voulons travailler, c'est renforcer la capacité technique des chirurgiens pour que toute chirurgie n'apporte pas d'autres conséquences. Et troisièmement, nous ne pouvons pas agir s'il n'y a pas un plateau technique minimum et s'il n'y a pas de sages-femmes pour pouvoir accompagner les mamans pour un accouchement sécurisé, une assistance à l'accouchement. Et c'est pour ça que nous continuons d'investir dans la formation et le déploiement des sages-femmes pour prévenir les complications de grossesse.
Nous avons appris que vous avez remis des matériels, notamment donc en territoire de Djougou. C'était combien et quel était l'objectif de cette cette intervention des UNFPA.
Il s'agit d'environ 2 tonnes de matériel médico-chirurgical d'une valeur d'environ 35 000 dollars américains qui comprend ce que nous appelons les kits d'urgence de santé de la reproduction. Juste un exemple, il y a un kit que nous appelons le kit 11 qui est un véritable hôpital ambulant. C'est tout ce qu'il faut pour faire toutes les interventions chirurgicales dans un district sanitaire. En dehors de cela, nous avons remis aussi des kits pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Nous avons remis des kits pour la prise en charge des survivantes de viol. Et bien entendu, nous avons apporté aussi des kits de dignité et des kits individuels d'accouchement. Les kits individuels d'accouchement, c'est ce que nous remettons à des femmes visiblement enceintes sur des camps. Et lorsqu'elles sont proches de l'accouchement, ça constitue un paquet minimum de sécurité pour que, une fois sur le lieu de l'accouchement, la femme puisse accoucher sans danger. Et actuellement, nous ne couvrons pas 50% des besoins de la province.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.